Le mec. Thionville avec RPL 89.2. 89.2.
Aujourd'hui, nouvelle émission sur notre antenne, la première. La nouvelle émission, c'est donc Au fil de l'eau. C'est donc ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de zones humides, source de bien-être humain. Nous sommes en compagnie de Jean-Louis et de ses deux invités. Bonjour, messieurs.
Bonjour
Géraldine.
Et puis bonjour à tous. Bienvenue à notre nouvelle émission, comme Géraldine vient de vous l'annoncer, Au fil de l'eau. Alors n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous arrêter, n'hésitez pas à vous poser des questions. Je suis là avec deux éminents professionnels et puis aguerris aux zones humides et surtout aux milieux humides. Donc j'ai Stéphane à ma gauche et Alain à ma droite. Je vais commencer par Stéphane. Stéphane, tu peux dire ce que tu représentes, qui tu es ?
Alors, professionnel, je ne dirais pas ça, mais par contre, voilà, Stéphane, donc je suis troisième vice-président du parc naturel régional de Lorraine. Et je suis conservateur des mares salées de Vic-sur-Seille.
Alain ?
Alors, moi, je suis Alain, je suis président de l'association Faune et Fleurs Aquatiques de Lorraine. Je suis aussi conservateur bénévole du Conservatoire des Espaces Naturels et plus apnéiste en réalité, puisque je filme sous l'eau en réalité les zones humides de Lorraine.
Voilà, donc on vous a déjà présenté tout ça. Et puis moi, je suis Jean-Louis, le président de la semaine de l'océan et de la biodiversité à Marly et du club d'aquariophilie Oléron à Marly également. Et je vous donnerai tout à l'heure, rendez-vous, un grand événement, c'est le 14 avril, on aura le temps d'en parler, de notre événement aquariophile à Marly, au NEC, que j'espère vous viendrez nous voir. Donc je commence un tout petit peu, la biodiversité c'est le tissu vivant de notre planète, c'est le but de notre émission Au fil de l'eau, nous allons rencontrer des animateurs, des passionnés sur l'eau, que ça soit aquatique, subaquatique et même au-delà des aires primaires, c'est-à-dire même préhistoriques jusqu'à nos jours. Voilà. Et l'usage du mot biodiversité est relativement récent, mais la biodiversité, elle est très ancienne en réalité. La diversité biologique actuelle est le produit de la longue et lente évolution du monde vivant. Sur l'ensemble de la planète. Les premiers organismes vivants connus datent de près de 3,5 milliards d'années. Voilà, donc nous allons commencer notre petite émission après ce petit interlude. Et ce matin, notre sujet, c'est les zones humides et les milieux humides. Voilà, alors, prêt Alain ? Prêt pour la petite première question ?
Alors je vais commencer. Ah, vas-y.
Okay. Oui, okay. Il faut d'abord que je pose la question. Il faut un peu nous excuser, c'est la première, hein, donc vous verrez, il y aura des petits pâtés, mais c'est normal, on est en Lorraine, donc les pâtés lorrains, c'est très bon. Première question pour vous, messieurs. C'est quoi, une zone humide ou un milieu humide ?
Alors, je vais commencer, on va parler des milieux humides en Lorraine. On va donner quelques chiffres quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, il y a 64% en réalité des zones humides qui ont disparu, 50% en France. Et dans cette disparition des zones humides, ça concerne en réalité 75% des espèces aussi qui ont disparu. Donc je vais essayer de vous présenter les milieux humides de Lorraine. Je vais commencer, je vais imaginer, c'est un tracteur qui rentre dans une forêt, il va vous faire une petite trace avec sa roue, il va faire une ornière, il va pleuvoir, il va avoir de l'eau qui va commencer à combler cette trace de tracteur et ses ornières, et ça, on peut dire que c'est le début d'une première zone humide.
C'est ce qu'on appelle les margelles ?
Ah non.
Non,
pas du tout.
D'accord.
Ouais. Donc, on va voir qu'il y a toute une population qui vit aussi dans ces forêts, hein, comme les amphibiens, et qui vont avoir besoin déjà de ces petites ornières, de ces petites traces de tracteurs où l'eau va arriver dedans pour pouvoir se reproduire. Après, qu'est-ce qu'on va avoir aussi dans une forêt ? On va avoir des mardelles. Les mardelles, en réalité, ce sont des anciennes dolines. Hein. Les dolines, c'est des trous qui se sont comblés, qui vont faire une superficie d'une dizaine de mètres. Après, dans ces forêts, on va aussi avoir des mares forestière. On va sortir de ces forêts, on va avoir aussi des mares de prairies, des mares aussi qui vont se trouver dans nos villages, qui servaient dans le temps pour, en réalité, pour combattre les incendies. On va un petit peu augmenter dans les surfaces, parce que ces mares-là font à peu près une dizaine ou une vingtaine de mètres. On va trouver des étangs qui sont piscicole. On va trouver des grands étangs comme les étangs du Lindre ou les étangs de la Chaussée. Du côté du Lindre, on va appeler ça le pays des étangs, parce qu'on va avoir d'autres étangs comme les étangs du Stock, de Mittersheim, de Gondrexange.
Tout à fait, c'est la porte ouverte en fait au pays des étangs.
On se
dirige en direction de Sarrebourg. Voilà, de la vallée du Sel, de l'Amseille,
jusqu'à
la vallée de la Sarre, et entre deux, il y a le pays des étangs.
Il y a le pays des étangs. Mmh. Et effectivement, ces étangs-là du Stock et de Gondrexange, du Stock et de Mittersheim, ils alimentent aussi le canal de la Déhouillère du bassin et de la Marne au Rhin.
C'est eux qui permettent en fait de garder un niveau d'eau du canal de la Marne au Rhin.
Voilà, et donc là on a aussi un très grand étang, c'est l'étang donc du Lindre, qui lui a une superficie à peu près de 600 hectares, donc qui se trouve en Moselle. De l'autre côté, en Meuse, on a l'étang de la Chaussée, qui a été créé en 1250 par le comte de Bar Thibaud II, et en réalité cet étang-là fait à peu près 300 hectares, donc vous voyez, beaucoup plus petit que le domaine du Lindre. Ensuite on va monter, on va trouver des lacs artificiels, ou des lacs naturels. Donc dans les lacs artificiels, on va avoir l'étang de Madine, qui fait à peu près 1000 hectares, qui alimente en eau la ville de Metz, où on se trouve à l'heure actuelle. Et on va trouver les seules, en réalité, ressources d'eau douce que l'on va trouver en Lorraine. Ce sont les lacs, en réalité, de l'âge glaciaire, que sont les lacs de Retournemer, qui a une profondeur à peu près de 6 à 12 mètres, le lac de Longemer, qui a une profondeur à peu près de 20 mètres, et le lac, en réalité, de Gérardmer, qui, lui, fait une profondeur à peu près de 40 mètres. Ensuite, on va trouver des rivières, comme la Meuse, comme la Moselle, comme la Meurthe. On va trouver aussi sur la Moselle, cette fameuse Moselle sauvage, hein, qui fait à peu près, elle, une douzaine de kilomètres. Hein. Et tout autour de cette Moselle sauvage, on va aussi trouver d'autres zones humides qui sont des gravières. Les gravières, en réalité, ce qu'il faut savoir, ce sont des zones humides qui s'en est servi, en réalité, pour extraire le gravier et pour nos constructions. Donc, on voit que les zones humides, en réalité, c'est tout un ensemble que je viens de vous citer et que l'on trouve en Lorraine.
Bien.
Alors, je ferai une petite aparté parce que je sais que Stéphane, c'est un spécialiste dans les zones humides. En réalité, je reviens juste là-dessus, on va trouver de l'eau douce, de l'eau saunâtre et de l'eau salée. Et bah oui, on va trouver aussi de l'eau salée en Lorraine. Et on va trouver des mares salées aussi. Je les ai pas citées, mais on a un spécialiste des mares salées qui est en face de moi, c'est Stéphane Corbeil. Oui. Et je pense qu'il peut rebondir là-dessus.
Oui, on va parler des mares salées. Donc là, on va se retrouver dans le secteur Axe, Dieu, Zvic sur Seille. Lezay, hein, dans ces secteurs, on va trouver, et Château-Salin, pardon, on va trouver à peu près 8-9 mares salées étendues, ça fait à peu près une centaine d'hectares globalement. Hein. Donc sur ces mares salées, on va trouver très peu d'eau, contrairement à ce qu'on peut voir sur d'autres mares. Hein. En fait, ça va marcher par restitution. Donc la pluie va tomber, l'eau douce, et par un effet de siphon, ça va remonter à la surface sous forme d'eau salée. Donc là-dessus, on va trouver toutes les plantes halophiles, strictes, et les plantes tolérantes au sel. Alors, comme je dis toujours, quand on arrive sur une mare salée, c'est super, parce que quand on amène des gens visiter, je leur dis toujours, attention, on va passer une frontière. Et cette frontière, c'est une ceinture, cette ceinture de guimauve officinale. La guimauve avec laquelle on fait les friandises, hein, on utilise les racines, hein, pour faire ces friandises. Et après, on va rentrer dans un biotope complètement différent. C'est-à-dire qu'on va marcher sur un tapis de joncs de Gérard, où les gens auraient tendance à se mettre pieds nus pour marcher dessus tellement c'est agréable. Puis on va découvrir toutes les plantes halophiles, tolérantes et strictes. Alors, comme l'aspergulée maritime, la syrpe maritime. On va parler de la salicorne.
Je découpe comme ça, Stéphane. Oui. En gros, tu nous expliques en réalité que dans ces mares salées, toutes ces plantes-là, c'est ce qu'on va retrouver, si je veux en baie de Somme ou que je veux au Mont-Saint-Michel, en bordure de mer, je vais retrouver ces plantes-là.
Voilà. Alors, en grande partie, on va retrouver ces plantes à la baie du Mont-Saint-Michel, par exemple.
D'accord.
Comme la salicorne couchée. Et par contre, il y a une salicorne endémique qui est avec Surseille. On appelle ça Emericis vincesis, la salicorne de Vic. Qui aurait des origines méditerranéennes, mais jusqu'à maintenant, elle est unique ici. Mais les scientifiques ne sont pas forcément d'accord entre eux pour dire qu'elle est unique. On pense qu'on pourrait la retrouver au bord de la Méditerranée, sous les mêmes formes et caractéristiques et même d'ADN.
Et le mot halophile, ça veut dire quoi?
Alors,
c'est ça qui est important.
Halophile, bah, c'est ce qui est tolérant, les plantes halophiles.
Oui.
Ah, comment on pourrait expliquer ça sur la définition?
C'est la question qu'on nous pose. Donc,
Halophile, pour moi, alors halophile, d'après ce que j'ai compris quand j'étais au parc, c'était les plantes halophiles tolérantes au sel. Tout simplement.
D'accord.
Hein,
okay.
Sur le contexte. Hein.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, on va parler de ces marsalées qui étaient exploitées à Dieuze, par exemple, sous forme. On utilisait des fours à poêle, des poêles à sel. On mettait l'eau dedans, on mettait ça dans les fours, l'eau s'évaporait, on récupérait le sel. Donc, voilà.
Et dans les étangs, dans les mares, qu'est-ce qu'il y a comme population? Est-ce que tout est différent ou alors ils sont tous regroupés? Dans les petites mares, qu'est-ce qu'on a? Des grenouilles, les habitants?
Bah, en fait, y a tout un écosystème, effectivement.
Ouais. Hein,
on va trouver toutes sortes d'amphibiens. Les grenouilles vertes, bah, de toute façon, Alain, il pourrait vous en expliquer ouais, davantage.
Bon, je voudrais juste rebondir avant, quand même, mm-hmm. puisqu'on était sur les mares salées. On peut se dire qu'on a...
Parce que vas-y. On est là pour parler.
Il y a 220 millions d'années, ici, en arrière, il y en avait la mer de Tétis. Et ouais. D'accord, donc il faut bien imaginer qu'il y a eu un déplacement des plates tectoniques. Il y a 220 millions d'années, on avait une mer ici, où on trouvait des ichthyosaures, des plésiosaures, on trouvait aussi des poissons, des lepidites, qui ont à peu près 220 millions d'années. Mmh. Et lorsque cette mer s'est retirée, elle a laissé une couche de sel, je pense, Stéphane, qui est de l'ordre de 200 km sur 150
km. En fait, on va partir de Salins-les-Bains dans le Jura jusqu'à Varangéville.
D'accord.
Hein,
Alors, Varangéville, on extrait le sel, en réalité...
De façon minière.
De façon minière, et on s'en sert pour nos routes.
Ah, d'accord. Voilà. Alors, effectivement, ça a été exploité très longtemps. Après, il y a eu toute cette mer qui s'est retirée. On avait toutes ces plaques salées qui sont restées avec le temps de façon minérale. Et donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça a été exploité pendant des années et des
D'accord.
années, si bien que, à force d'avoir exploité jusqu'à l'époque gallo-romaine, le niveau de la terre est monté de 7 mètres, de sédiments, de tout ce qui était exploitation, comme le briquetage de la saille et compagnie. Voilà.
Donc, on parlait tout à l'heure de la salicorne. Donc, c'est la salicorne. Moi, je me souviens, quand je me promenais dans la baie du Mont-Saint-Michel, on prend cette salicorne, on la mange, elle est salée.
Elle est mangeable.
Ah, elle est mangeable.
C'est très bon, en plus.
D'accord. Et tu peux nous expliquer, parce que lorsqu'on est sur les routes au niveau de Marsal, de Lezay, on voit au niveau de Lezay, il y a des mares salées. Elle est rouge. Pourquoi elle est rouge et en même temps, elle est verte?
En fait, bah, c'est sa façon de mûrir, en fait.
D'accord.
C'est comme, je vais parler bêtement, mais c'est comme le poivron.
Hein,
le poivron, il est vert, il est jaune, puis après il devient rouge.
Hein. D'accord.
Souvent, c'est une sorte de maturité. Ouais, la salicorne, elle devient verte. Quand elle pousse, elle est verte. C'est là qu'on la consommait dans cet état-là.
Plus,
voilà. Puis après, elle commençait à rougir parce qu'elle était mûre après pour donner ses graines. Alors, ces graines sont données de façon très spéciale parce que c'est des petits... C'est comme des petites phalanges, en fait. Et entre ces petites phalanges, il y a un petit recouvrement de feuilles et les graines sortent par là. Et après, bah, elle sèche et ça devient comme un squelette, en fait.
D'accord.
Elle va rester là tout l'hiver et au printemps, elle va repousser.
Il n'y a que les humains qui mangent la...
Non, les animaux sauvages, bah, le sanglier, tout ça. Ouais, je vois, il y a beaucoup de traces sur les marsalées avec Sourceil. Hein. Alors, je ne pourrais pas dire qu'ils en raffolent, mais de toute façon, ce n'est pas pour rien que souvent, dans un champ, on laisse un bloc de sel pour les vaches qui puissent lécher. Et tout ça, ils aiment bien quand même.
Oui, mais c'est quand même protégé par rapport à la population sanglier, etc.
Ah ben, c'est des sites qui sont protégés, mais ils ne sont pas fermés.
D'accord.
Et j'aurais une question, ça ressemble à quoi, la salicorne? Parce qu'on en entend souvent parler dans le saulnois, mais...
C'est le haricot de la mer, effectivement.
D'accord.
Alors, voilà, définir, c'est...
C'est un peu une forme comme la prêle, mais beaucoup plus dense et beaucoup plus petit, en fait. On va dire ça comme ça. avec plus...
Plus développé.
C'est plutôt développé, plutôt gras. Et
c'est comme les plantes grasses.
Un peu comme le cornichon, façon. En fait, dans voilà, sa matière, ouais. Au toucher. Voilà.
Bon, on n'est pas là pour parler cuisine et recettes.
Non, non, mais...
Non,
mais
non, mais
au goût et tout. Ça se consomme, hein, c'est bon.
Ah oui, ça se consomme, bah oui.
Oui, c'est salé et on la consomme. Alors, le mieux, c'est de... Nous, ce qu'on faisait,
les gamins,
c'était... On la mettait dans la saumure, comme les cornichons.
D'accord.
Voilà. Et on la sortait, je me souviens... Pendant les grandes occasions, quand on mangeait du brochet qu'on allait acheter à l'Indre, voilà, avec du poisson en règle générale.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais. Donc, on a quand même une rivière qui s'appelle la Seille, qui prend, je pense, sa source au l'Indre.
Oui.
Qui tout d'un coup se déverse dans la plaine.
Oui.
Est-ce que le fait de la couche de sel qu'il y a, est-ce qu'il y a un taux de salinité qui est supérieur, est-ce que...
Alors effectivement, les mares salées, on va retrouver un taux de chlorure de sodium pur, hein. On va pas parler d'autres éléments ni de minéraux à côté, pas comme dans la mer où on est autour de combien, entre 25 et 30.
0,35.
Ouais.
0,35.
Ça dépend les mers.
Ça dépend, voilà, c'est ça. Entre 0,35 au litre de sel.
C'est ça. Là, on va se retrouver à 0,45, 0,60 litres de sel, ce qui est énorme, de chlorure de sodium pur. Ce qui dit bien que, en fait, la seille est elle-même légèrement salée à cause de ça. C'est pour ça qu'on retrouve des plantes dites méditerranéennes sur les abords de la seille jusqu'au plein cœur de Vic-sur-Seille.
D'accord.
Voilà. À Vic-sur-Seille, ils ont laissé, en fait, tous ces bords de seille en répisylve verte. Il n'y a pas d'arbre. Et on a pu apercevoir avec Alain l'été dernier la Rochastée, on a vu
la Spagnère maritime, la Troscar, enfin pour les citer. Le terme c'est vraiment
allotérant. Ça, ce sont des plantes, des plantes à fleurs, c'est ça.
Des plantes méditerranéennes.
Qu'on retrouve ici.
Tolérante, il y a allotérante, et voilà. Il y a les plantes, il y a une ceinture, comme m'a expliqué, il y a une ceinture de plantes. Il y en a qui sont vraiment sur, comme la salicorne, sur le sel pratiquement pur avec l'eau. Ça. Et puis il y a des plantes allotérantes qui sont un peu plus loin et qui ont une tolérance allotérante, une tolérance au sel en réalité.
Allotérante, allophile.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Donc, vous avez bien compris les deux mots.
Donc on peut remonter après. On est à Vic-sur-Seille, on va remonter sur le Lind, qui est quand même une des plus grandes. Tu connais peut-être mieux que moi parce que c'est ton secteur, qui est un des plus grands étangs piscicoles, qui fait 1000 hectares quand même, piscicoles de France.
Oui, pourrait parler comme ça.
C'est une réserve même.
C'est devenu une réserve piscicole. Alors, ça fait très 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 longtemps qu'on fait de la pisciculture dans ce petit coin-là, et ça commence à se perdre un petit peu, parce que les générations commencent à se terniser, et puis la dernière pisciculture connue, il y a celle de l'Indre, mais sinon c'est Jelucourt, chez monsieur Alain Lullier, justement, où il va prendre sa retraite, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment... une pisciculture, on avait bien vu, Alain, c'est quand même vachement traditionnel avec les filets
encore
accrochés au grillage, à l'ancienne, avec le beau foucardage et l'entretien vraiment manuel de ces étangs.
Alors, il me semble que, par exemple, je sais que la chaussée est vidée tous les ans, le Lind, c'est tous les deux ans.
C'est tous les
deux
ans.
Donc, on pratique un ASEC, ce qu'on appelle un ASEC.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire le fait de vider l'étang, il y a une couche de vase qui, grâce à l'ASEC, va diminuer, si bien compris. Et on pourrait peut-être parler, c'est dans nos zones humides, dans nos milieux humides, on pourrait parler quand même de cette pêche traditionnelle qui se pratique au filet.
Au tir le filet, encore.
Donc, j'ai bien compris, les étangs, ils ont été faits principalement par des moines pour nourrir la population qui existait autour.
À l'époque.
À l'époque, d'accord. On vient situer le sujet. Vas-y, continue.
Comme on disait, c'est le tirer au filet, comme on avait bien vu. Et on avait vu aussi chez Alain Lullier, on avait discuté un petit peu avec lui sur ce qu'il y avait autour de ces milieux humides. On avait vu qu'il y avait vraiment, ornithologiquement parlant, beaucoup de diversité, beaucoup d'oiseaux. Alors, Martin Pêcheur, on avait parlé du Blombio, du Butor étoilé, le Héron, la Grande Aigrette.
On a du Pigargue aussi, là-haut.
Le Pigargue.
Tous les oiseaux de passage, parce que ces étangs aussi, il faut bien comprendre qu'ils servent de halte migratoire pendant la migration, des grues entre autres, mais d'autres oiseaux, entre janvier, février, mars, où il y a des oiseaux vraiment spécifiques qui arrivent dans notre secteur. Par exemple, à l'étang de la Chaussée en Meuse, il y a un dortoir à grues, hein, qui peut aller jusqu'à 3 ou 4 000 grues. Pour faire le parallèle, l'étang du Linde, c'est vidé tous les 2 ans. Celui de la Chaussée, c'est vidé tous les ans. On commence à le vider début août. Et la pêche, à un moment donné, dans l'étang, le niveau baisse à peu près de 70-80%. Et la pêche se pratique entre le 15 octobre et le 15 novembre. Après, on referme les valves et on attend que l'étang se recomplète.
Comment ça se fait que dans la Meuse, vous le videz une fois par an et que...
C'est une politique.
C'est
le département qui descend. Voilà. Là, l'étang de la Chaussée, c'est tous les ans en réalité qu'il est vidé. Hein. Tous les ans, il y a une politique, ils font la pêche du grand étang. Et voilà. Donc il faut imaginer une dizaine de personnes, enfin même une quinzaine de personnes qui tirent ces filets. Pour tirer un filet, le ramener jusqu'à la digue. C'est-à-dire, on va arriver à la moitié de l'étang, on va rentrer à la moitié de l'étang, on va tirer. Donc vous avez 7 personnes qui tirent d'un côté, et ils arrêtent. Après, c'est 7 autres comme ça, et ça peut durer jusqu'à 4 heures. Pour ramener jusque dans la pêcherie, en réalité, il y a un goulet d'étranglement. Après, il y a une pêcherie, hein, et après, on ramène ce filet-là, et tous les poissons vont finir là. Et après, c'est vendu à la population. Vous pouvez repartir avec votre brochet, votre carpe sous la main. Voilà. C'est vendu directement, voilà. Et c'est pesé et c'est vendu. Voilà.
Puis les grosses carpes, etc. Là, c'est pour la reproduction.
D'accord. Et à l'étang là, c'est la même chose.
Ouais, c'est la même chose. Et ils organisent autour de ça, en fait, la fête de l'étang. Ouais. Où ils ouvrent la pisciculture au public et ils viennent pour acheter leurs poissons. Et il y a une grande fête autour de ça. Il y a quelques expos photos.
Les beignets de carpe aussi.
Voilà. On pourrait parler des populations des temps, hein, dans les poissons. Les poissons, alors, voilà. Il y a les poissons qu'on va dire d'eau courante et les poissons d'eau stagnante. Hein. On va trouver des brochets, on va trouver des carpes, on va trouver des brèmes, on va trouver de la perche. Hein. Donc c'est pour les poissons principaux. Par rapport aux poissons d'eau courante, qui sont plutôt la truite, le chabot, la lamproie de plein air, qui sont poissons, quand même des poissons spécifiques.
Comme le chevesne aussi, où tout le monde confond... Ceux qui ne connaissent pas me disent souvent « Ah, il y a des truites dans la Seille ouais. !» Enfin, toujours « Non, c'est pas c'est des chevaux. »
Ouais, on pose toujours la question qu'il y a des rivières de première, deuxième catégorie. Ça veut dire quoi
c'est ça. Ah, ça, c'est compliqué. Hein.
C'est la pêche. Hein,
ouais, ça, c'est la pêche. C'est pour la pêche, ouais.
C'est-à-dire
Et pour en revenir à l'ornithologie, vous avez parlé des grues tout à l'heure.
Oui.
Là, dans le saulnois, on constate que... du saulnois près de chez moi, il y a des cigognes qui sont déjà de retour.
Oui.
Alors, est-ce qu'elles sont parties revenues ? Est-ce qu'elles sont restées ici ? Mais est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'eau et de zones humides, ça les attire plus ? Elles reviennent plus chez nous ?
Non, pas forcément la cigogne. Hein. Ce n'est pas un oiseau spécifique des zones humides, la cigogne. Il faut bien comprendre. Ouais, ça, c'est des poissons. Là, c'est des poissons. C'est des oiseaux, en réalité, qui sont migratoires, effectivement, les cigognes. Mais avec le réchauffement climatique, par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Portugal. Et ils ont constaté que la population, elle avait augmenté. Parce que si on trouve les... Avec le réchauffement climatique, c'est une question de température. Si les oiseaux ils trouvent ce qu'ils ont besoin sur place et que la température s'y prête, a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Donc je pense que là, il faudra vérifier au niveau mondial, mais je pense que la migration des oiseaux sur leur distance, elle a peut-être diminué.
Et il y a bien des années, il y a eu un programme de sédentarisation des cigognes à l'Indre, justement.
On en a des sédentaires, je pense.
Voilà, on
en
a des sédentaires.
Alors, comme les grues, maintenant.
Du fait
comme
du changement climatique, justement, je rebondis là-dessus, on a aussi des grues qui, maintenant, sont nicheurs dans la région.
À la Chaussée, il y a un dortoir de 2 000-3 000 grues, quoi. Vous pouvez y aller toute l'année, vous les verrez, quoi.
Donc, elles restent là toute l'année. Donc, il y a bien des effets de réchauffement climatique. Et on voit aussi des oiseaux qu'on voyait plus longtemps avant. Mmh. Maintenant, les cycles sont plus courts. C'est mon impression, mais quand il y a la période de la mue des oiseaux d'eau, comme le milouin et tous ces autres, hein, la netrousse et compagnie, on a l'impression qu'ils viennent plus tôt. Bah, du coup, ils partent plus tôt. Hein, avant, on avait vraiment un super long moment d'observation. Par exemple, moi, je me souviens à l'Indre, on passait... pratiquement un mois et demi à observer tous ces oiseaux.
La période de migration de ces oiseaux, là, comme tu as cité, comme la netrousse, comme le garrot sonneur, ou le harlebief, c'est quand même des migrations qui vont de janvier, février, mars sur nos cours d'eau et qui après, on a moins de chances de les observer. Hein.
On va faire une petite pause et puis à tout de suite alors.
C'est quand même, ça.
sais plus où j'en suis. Confuse, instable, comment penser à lui? C'est arrivé si soudainement, je vivais sans entrave, j'avançais. Je les connais, c'est depuis longtemps. Mon esprit l'imprégnant instinctivement, souvenir remontant affolement. Je me sens plus maître de moi. Alors je chante, j'écris pour qu'ils sortent de ma tête. Mes idées noires, blanches ou roses, je ne sais plus trop en fait. N'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Alors je chante, j'écris pour qu'elles sortent de ma tête. Mes idées noires, blanches ou roses, je ne sais plus trop en fait. N'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal.
De retour sur notre antenne, où nous parlons de zones humides ce matin et nous allons parler tout de suite, il me semble, d'amphibiens.
On va parler d'amphibiens, mais je voudrais juste terminer sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le lin, qu'il y avait une belle population de ornithologiques, c'est-à-dire d'oiseaux. Et en ce moment, au Récollet, à l'Institut européen d'écologie, dans le hall de Récollet, il y a une exposition en réalité qui a été faite par Patrice Costa, qui est le président de l'Institut européen d'écologie, et qui présente à peu près 20... Il y a 25 panneaux qui présentent les oiseaux de nos régions.
Oui.
Voilà. Ouais. Donc, on va pouvoir rebondir on va parler un petit peu des habitants des mares en réalité, hein, soit des mares de prairies ou des mares de forêt. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on va parler des amphibiens. Quand on pose la question aux enfants, même des fois aux adultes, ils nous disent ouais, bah, les amphibiens, ça vit dans l'eau. C'est vrai, mais ils passent plutôt 90% de leur temps à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont pas. Bah, hiberner, mais ils vont hiverner en réalité en hiver dans les forêts. On a en Lorraine ce qu'on appelle, on a dans les amphibiens les anours, c'est-à-dire les amphibiens sans queue, et les urodèles, les amphibiens avec queue. Les amphibiens sans queue, en réalité, on va trouver les crapauds, les grenouilles et les rainettes. Alors bien souvent, les gens me disent « Ouais, la rainette, c'est une grenouille ». Eh ben non, la grenouille, comme le crapaud, ont les pattes arrière qui sont palmées. Alors en réalité, que la rainette, elle n'a absolument pas les pattes palmées, elle a des ventouses, elle est arboricole, elle vit dans les arbres. Donc dans les amphibiens qui n'ont pas de queue, on trouve bien donc crapaud, grenouille et rainette. La migration des amphibiens, en réalité, elle commence fin février. Ça dépend les espèces. On va, par exemple, fin février, début mars, on va avoir les crapauds qui vont sortir avec les grenouilles rousses. En avril, on va avoir les grenouilles vertes, et ainsi de suite. Et on va aussi avoir des amphibiens, ce qu'on appelle des amphibiens aussi avec queue, que sont les tritons et les salamandres. En Lorraine, on a quatre tritons. On a le triton alpestre, le triton palmé, le triton pourpré et le triton crêté, qui est certainement le plus gros triton qui existe. Et on n'a qu'une seule salamandre, c'est la salamandre tachetée. On la voit avec ses taches noires et ses taches jaunes. Et elle aussi, elle vit dans la forêt. Donc, normalement, ne va à l'eau que la femelle qui va aller pondre ses œufs.
La salamandre ne nage pas. Donc si vous en trouvez une, ne la jetez pas dans l'eau parce que là, elle va se noyer complètement.
Hein. Exactement. La salamandre, elle a une queue qui est ronde, alors que le triton, il a une queue palmée. Essayez de nager avec une queue ronde, vous verrez que c'est pas trop possible. C'est pas trop possible. Aussi, c'est la salamandre, c'était aussi un peu le symbole de François Ier. Sur son écusson, on trouvait une salamandre parce que dans le temps, ce qui se passait dans les tas de bois, parce qu'en réalité, je vous ai dit que ça vivait dans les forêts, mais ça peut aussi vivre dans un tas de bois. Et dans le temps, on prenait le bois, on le balançait dans la cheminée, et bien souvent, on voyait sortir une salamandre, la pauvre salamandre. Et on a fait un peu pour se dire, ok, c'est un peu le symbole, c'est un peu aussi le symbole du feu et l'emblème de François Ier sur son drapeau. Mmh.
Et est-ce qu'il n'y a que des salamandres qui vont dans les mares? Il n'y a pas d'autres petits insectes comme...
Les insectes, alors... On a dans les mares. Hein. Les mares, c'est quand même très riche en biodiversité. Donc, on a des amphibiens, mais on a aussi des insectes, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, en été, vous voyez les libellules. Les libellules, c'est beau. Mais est-ce que vous savez que ça avait une vie aquatique? En réalité, une libellule, ça mue sous l'eau comme un homard. Hein, ça grandit. Suivant les variétés, ça peut aller de 3 mois à 3 ans, en réalité, en restant sous l'eau. Et à un moment donné, la libellule, quand elle va se sentir prête, ce qu'on va appeler l'émergence, elle va sortir de l'eau, elle va monter sur un roseau, elle va sortir de son exiguë, c'est-à-dire de sa carapace, et devenir une libellule. Mais lorsqu'on regarde, qu'on filme une libellule sous l'eau, on voit que cette libellule, elle a une carapace, elle a des ailes, et elle vit sous l'eau, et elle respire sous l'eau.
Elle chasse.
Et elle chasse sous l'eau. Ouais. Voilà.
Donc, un gros prédateur. Hein,
ouais. On a beaucoup d'insectes qui sont sous l'eau. On a aussi toutes les larves de moustiques. Hein. Dans les larves de moustiques, il y a des mâles, il y a des femelles. Je rappellerai qu'il n'y a que la femelle qui vous pique. Le mâle ne pique pas. Hein. La femelle, elle vous pique pour récupérer de votre sang et des protéines pour pouvoir nourrir ses petits, en réalité. Donc, on a une population qui est... On va trouver aussi lorsque c'est du zooplancton et du phytoplancton. Hein. C'est tout la distribution de la chaîne animale, en réalité, qui va... de nourriture qui va se mettre en place avec ce zooplancton qu'on va trouver dans les mares et ce phytoplancton. Le zooplancton, c'est tout ce qui est végétal, que le phytoplancton, c'est tout ce qui est animal, hein, qui va servir à nourrir toute cette population. On va trouver aussi des plantes, hein, des plantes aquatiques. Hein. Dans nos mares, on peut aussi trouver des caracées. Hein, là. Les caracées, ce sont les plantes un peu précurseurs lorsqu'on fait des mares, qu'on creuse des mares, parce que les mares aussi, on a tendance à recombler les mares parce qu'on pense que c'est des nids insolites où on va trouver tout ce qui est insectes, moustiques, ça va nous piquer, donc on aurait tendance à vouloir les combler. Avec l'urbanisation aussi, l'urbanisation, elles vont se trouver comblées aussi. Mais ces mares, en réalité, elles sont très riches et on va trouver des plantes. Et lorsqu'on réalise une mare, ça peut aller jusqu'à 4 mètres de profondeur. Les premières plantes qui vont apparaître sont les caracées. Mais on va trouver aussi d'autres plantes. Hein. On peut trouver aussi des nénuphars, on peut trouver des plantes qui sont carnivores, comme l'Utricular australis, qui a des rhizomes, hein, c'est des plantes hydrophytes en réalité, qui ont des rhizomes, et ces plantes-là, elles sortent. Alors, ce n'est pas la jolie fleur qui est en surface, en réalité, qui est carnivore. En réalité, c'est ce qu'il y a dans l'eau. Dans l'eau, il y a des rhizomes avec des petites outres, en réalité, et ces outres-là, elles ont des clapets, et quand elles s'ouvrent, il y a une aspiration qui se fait, elles vont capturer du zooplancton, par exemple, pour se nourrir. Donc, ce sont aussi des plantes carnivores que l'on trouve dans nos étangs et dans nos mares.
Bien, eh ben dites donc, ça vit là-dedans, ouais. Ça vit. Hein.
Oui, et pour rebondir par rapport à la vie sur les mares salées, on a découvert, mais les scientifiques du parc naturel connaissent très bien, apprennent à connaître, c'est les insectes sur les mares salées. Alors, comment ils arrivent? Comment ils survivent quand il n'y a pas d'eau? Parce que chaque mare vit différemment. Mais ce qui est incroyable, c'est que d'une mare salée ou qui est séchée par le soleil avec la terre qui est craquelée dans tous les sens...
C'est ce que j'allais demander. Une mare salée, donc, elle n'est pas tout le temps immergée avec de l'eau.
Non, du tout. Et dès qu'il y a une averse, eh ben, on se retrouve avec une restitution d'eau salée remplie d'insectes. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils survivent quand il n'y a pas d'eau. Et ça, c'est un
mystère.
C'est un grand mystère pour l'instant. Et on n'a pas de réponse.
Là, on les trouve que dans les mares salées ou ils peuvent
Alors, pour certains, on va en trouver sur, par exemple, au bord de l'Atlantique, au bord des plages, au bord de la mer ou de la Manche.
Comme les puces d'eau.
Mais concrètement, nous, on ne sait pas comment ils survivent quand il n'y a pas d'eau ici. Comment ça se passe? Clairement, il y a eu des petites fouilles qui ont été faites, on ne les a jamais retrouvées, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas.
Alors, puisqu'on parle de salé, je vous donner une petite anecdote. Si je vous dis, est-ce qu'on va trouver des méduses?
Oui, justement, oui.
Bah, dans la mer, oui.
Dans la mer, on est bien d'accord. Ouais. Bah, si je vous dis qu'il existe des méduses d'eau douce, vous allez me croire?
Ah, nous, oui.
Bah, nous, on te connaît.
moi, j'avoue que voilà.
C'est pas possible.
Ce que vous le dites, c'est que ça doit être vrai, mais...
Bah, en eau douce, je pense pas. Eh bah, si, ouais. Il existe une méduse d'eau douce. Ouais. Ouais. Méduse d'eau douce qui s'appelle Sowerby, hein, qui vient du fleuve Yangtze-Kiang, et qui a été amenée par les oiseaux. Et les premières observations, elles ont été faites dans les années 70 par la Société d'Histoire Naturelle de Metz, où, dans une gravière, les scientifiques ont vu... une concentration de méduses. Alors, la grosseur, elle fait pas plus gros que mon ongle, en réalité. D'accord? Alors, comme toutes les méduses, elle est urticante, mais comme elle est très petite, ces tentacules, ces cnidaires, en réalité, ne vont pas pouvoir rentrer, percer notre peau. D'accord? Mais comme toutes les méduses, elle est urticante. Et on en trouve dans nos canaux, on peut en trouver dans nos étangs, et on peut en trouver dans nos gravières. Donc, effectivement, on a bien des méduses d'eau douce qui nous viennent du fleuve Yangtze-Kiang, cette méduse-là s'appelle Sowerby, en réalité. Et on peut trouver, effectivement, des méduses dans nos eaux douces.
Mais il y a mal les femelles ou pas?
On a que des mâles. En réalité, c'est une reproduction asexuée. Et en réalité, on a que des mâles.
Mais pas que des méduses. Tu m'avais fait découvrir quelque chose d'incroyable. J'aurais jamais pensé à ça non plus. Alors que j'allais toujours me baigner quand j'étais gamin à Gondrexange. Tu m'as parlé de l'éponge d'eau douce.
Ah oui, il y a aussi les éponges d'eau douce. Alors dans la classification, en réalité, hein, c'est un des plus vieux animaux qui existent sur Terre. Hein, parce que... Alors, les éponges, au départ, les scientifiques les avaient classées comme étant des plantes. Mais en réalité, ça vient des pores inhalants et exhalants, et ça se reproduit. C'est diploplastique, en réalité, c'est très primaire, en réalité, comme animal. Hein. Et c'est quelque chose qui a 600 millions d'années en arrière. Et effectivement, il y a des méduses d'eau douce. Ouais. Alors, elles sont, ici, en Lorraine, elles sont soit blanches ou vertes, en réalité, dans nos rivières ou dans nos étangs. Donc, quand on remonte, on a les éponges d'eau douce, après on a les méduses et on remonte ainsi dans la classification. Disons que ce qu'on peut se dire, c'est que par rapport à l'eau de mer, on va tout trouver en eau douce, d'accord, sauf le corail et les anémones, et un autre groupe qu'on appelle les échinodermes, c'est-à-dire on ne va pas trouver en eau douce d'oursins ou d'étoiles de mer. Mais tout le restant, on va le trouver. On va trouver des poissons, on va trouver des crustacés. On a aussi des crustacés hein, dans nos rivières. On a dans nos rivières, comme on disait tout à l'heure, de première catégorie. On va trouver de l'écrevisse à pattes blanches, de l'écrevisse à pattes rouges. Mais aussi, on a des écrevisses malheureusement invasives qu'on trouve dans nos étangs, que tout le monde a entendu parler, comme l'écrevisse américaine ou l'écrevisse de Californie ou de Louisiane, qui justement... Alors, Il n'y a pas un combat en réalité entre les écrevisses, mais ces écrevisses-là, elles sont porteuses en réalité de la peste animale. Et elles vont donner cette peste-là à nos écrevisses qui va les faire mourir. Voilà.
Et dans une mare, on peut trouver des poissons ou pas ?
Alors, dans une mare, normalement, il n'y a pas de poissons. Si on met des poissons dans une mare, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des poissons fouisseurs qui vont retourner les plantes, puis il y a des poissons carnivores qui vont manger par exemple, les œufs d'amphibiens. Donc, il est clair que l'Association de la faune aquatique de Lorraine, on a réalisé un film qui s'appelle Secret de mare. On a travaillé pendant 14 mois sur une quinzaine de mares, que ça allait en Moselle, en Meuse, voilà. Et dans toutes ces mares-là, il n'y avait pas de poissons.
D'accord. Donc pas de poisson dans les mares, sinon c'est plus une mare.
C'est plus une mare.
Voilà.
C'est plus
d'accord. Une
mare. Et quel est l'intérêt ou le but de préserver, de restaurer les zones humides des mares ?
En réalité, ce sont des écosystèmes qui représentent une énorme concentration de biodiversité. Mmh. Et donc, il est évident qu'il faut les conserver. C'est pour ça qu'il y a un programme qui s'appelle PRAM. Programme régional d'action en faveur des mares, où en Lorraine, c'est Quentin Moret du Conservatoire des espaces naturels qui en est le responsable, qui est chapeauté par la région, et on creuse des mares tout autour en Lorraine, on réhabilite des mares, parce que ces écosystèmes-là, c'est énorme en concentration. On a vu tout à l'heure, on parle d'insectes, on parle d'amphibiens, on parle de crustacés.
De plantes.
On parle de plantes. Donc c'est certainement certainement les plus riches écosystèmes qui puissent exister.
C'est des réservoirs de puits de carbone aussi.
Beaucoup d'oxygène.
C'est de la sauvegarde.
Oui,
c'est très important, je pense.
C'est important d'en parler, de le montrer et puis de sensibiliser face à toute cette artificialisation des sols qu'on subit autour des villes et villages. Hein. On voit bien les lotissements qui poussent à tout va.
Alors, ça fait partie des causes de réduction de ces milieux-là, l'urbanisation, la sylviculture, tu pourrais peut-être en parler. La sylviculture, c'est même, je pense, avant l'urbanisation, c'est la première cause de réduction des zones humides.
La sylviculture, c'est la gestion forestière très agricole, en fait. Hein. Ouais. Donc, donc, depuis peu, on prend conscience de ce qui se passe. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est trop tard, mais il y a des choses qui se passent. Il y a du positif qui arrive à grands pas. Moi, je le vois à travers toutes ces bonnes réunions qu'on fait. Et puis, sur le terrain aussi, hein, on voit bien des créations et des sauvegardes de mares. Alors, moi, je prêche ma propre paroisse. Hein, je vais du côté de la forêt du Römersberg. On voit bien tous ces travaux qu'il y a eu il n'y a pas longtemps de préservation, de nettoyage autour de ces mares. Et puis, ce qu'il faut, c'est quand on veut aller visiter une mare, ce qui est bien, c'est d'aller se rapprocher un petit peu, comme ton émission prochaine, ça sera les guides nature, c'est se rapprocher d'eux pour comprendre et apprendre ce qu'il peut y avoir. Alors, on fait, je sais que sur la chaussée, il y a pas mal de sorties organisées par Fabrice André.
Nous recevrons avec toi dans 15 jours.
Dans 15 jours. Moi, je me lance aussi dans le Saulnois et je travaille avec l'Office du tourisme, notamment pour la visite des mares salées. Donc, pour ceux qui veulent visiter ces mares salées, il faut prendre contact avec l'Office du tourisme du Saulnois. Voilà. Mais il est important de sensibiliser, de parler et de montrer ce qu'il ne faut pas faire autour de ça. Et puis, de changer toutes ces pratiques sylvicoles, agricoles et d'urbanisme.
Et je pense que le jour, le 14 avril, vous serez au NEC pour présenter tout ça.
Qu'est-ce qui se passe au NEC ?
Ah, là, tu peux parler de la biodiversité au NEC ? Qu'est-ce qui va se passer ?
On présentera une partie du pays des étangs. On vous montrera en film et en même temps en photo les étangs du Lindre, du Mitterseng, Andrézange, le Stock. On va faire une petite rétrospective de tous ces étangs, Lindre, la Chaussée. On vous montrera un petit peu ces zones humides, comment elles se déclinent à travers des photos, à travers une mini-exposition de ces zones humides.
Il y aura ça. Il y aura aussi notre ami Patrice Costa, que je rebondis là-dessus, que tu as nommé tout à l'heure. Qui fera une conférence. Tu peux nous en dire quelques mots ?
C'est sa conférence. Il va certainement parler. Patrice Costa, c'est le président donc, de l'Institut européen d'écologie, grand reporter à l'Est républicain, mais spécialisé aussi sur l'ornithologie, c'est-à-dire sur les oiseaux. Et normalement, il devrait nous faire une conférence globale sur les oiseaux de notre région.
Oui, ce sera à 14h et il y aura quand même quelques tableaux à lui. de photos d'oiseaux.
Oui, on va reprendre en réalité une partie de l'exposition qui est au récollé. On va la reprendre et la mettre au NEC à Marly.
Voilà, donc vous serez à même de regarder cette... Si vous ne pouvez pas aller au récollé, que je vous invite à aller voir, vous aurez une rétrospective à Marly, au NEC, et à 14h, une conférence de Patrice Costa sur les oiseaux d'amour, comme il les appelle, de bonheur. Et il pourra vous expliquer aussi ces photos, ce qu'elles représentent et où elles ont été prises.
Et en rebondissant encore sur Patrice Costa, j'oublie pas qu'il a écrit un livre, et pour moi ça me parle beaucoup, où le titre de son livre c'est « L'étang roi, et c'est l'étang du Lindre ». Voilà. Oui. Et en ce moment, mon épouse est en train de lire un livre sur les femmes des terres salées. Et je dis, c'est quoi ce livre-là? Ça s'appelle comme ça. Et c'est un livre justement qui parle des femmes qui vivaient là sur ces terres salées à Marsal, Dieuze, etc.
D'ailleurs, on voit dans les petites histoires
très
de France, cette petite série qui passe à la télé.
Oui,
il y a Marsal.
Marsal dans la histoire de France.
Voilà. C'est génial.
Eh bien, alors, on a fait un peu le tour. Moi, j'ai entendu qu'il y avait aussi des insectes médicinaux ou médicinales, comme la méduse.
La sangsue médicinale.
On la retrouve où?
C'est un ver, on l'a redécouvert, nous, sur l'étang de la Chaussée.
C'est important de le dire, de savoir
ça. Ça fait partie des vers. Les vers, en réalité, tout à l'heure, on parlait de l'évolution. Vous avez les éponges, les vers, et après les cnidaires, tout ce qui est corail. Et effectivement, c'est un ver. Elle a beaucoup été utilisée en médecine. Et nous, on l'a redécouvert sur l'étang de la Chaussée. Et voilà, elle prolifère pas, mais elle est présente sur cet étang.
Donc à la Chaussée, on trouve aussi des insectes que les araignées qui sont dans l'eau. C'est laquelle qui est très rare.
Parce que moi, on a travaillé avec l'association Faune et Flore Aquatique de Lorraine. On a sorti un film qui est dédié à Jean-Marie Pelt, qui s'appelle La Chaussée, Renaissance d'un étang. C'est un 40 minutes qui est commenté, qui est fait sur cette réserve de la Chaussée. Et effectivement, on a, à un moment donné, sur une des observations, j'ai eu la chance d'observer la seule araignée qui est aquatique, c'est-à-dire c'est l'argyronette. Et j'ai vu un petit peu comment elle construisait sa bulle. C'est la seule araignée qui va sous l'eau, qui vit dans une cloche sous l'eau. En réalité, elle fait un petit chapelet de bulles, elle associe ces bulles-là, après elle fait une cloche, et elle se reproduit et vit dans cette cloche-là. En 12 ans de plongée sur notre région, je ne l'ai vu qu'une seule fois. Et quand les photographes de l'association, moi je l'ai filmé, et quand ils ont essayé de refaire et les scientifiques sont venus pour essayer de la revoir, on ne l'a jamais revue. Donc une observation en 12 ans.
C'est quand même incroyable qu'on ait toutes ces choses-là à portée de main et qu'on essaye d'aller voir au plus loin possible. Pour voir les paysages, les arbres, etc.
Comme je dis, tout le monde connaît la Grande Barrière de Corail, la Mer Rouge, tout le monde connaît, les Nemo, les amphiprions Ocellaris, c'est Nemo, c'est le poisson clown. Mais ce qui est en bas de chez nous, un triton, une salamandre, on connaît moins. D'accord. Ouais. On a déjà commencé par ça.
Et quel conseil qu'on pourrait donner, aux badauds, aux promeneurs, ne serait-ce que pour essayer de protéger tout ça?
Surtout de préserver l'écosystème, de ne pas laisser divaguer les chiens. Parce que je prends un exemple avec Patrice Costa, au niveau des étangs à Velles-sur-Moselle, au niveau des étangs des gravières qu'on a réhabilitées en réalité en réserve ornithologique, en ne mettant pas de pêche dessus, en limitant la promenade, en disant qu'il ne faut pas laisser divaguer les chiens. Et je prends un exemple, on avait des sternes pierre-garin, c'est un oiseau assez rare, on avait une portée on avait deux couples qui s'y étaient mis, les gens ont lâché leurs chiens, les chiens ont été sur l'îlot et les oiseaux ne sont jamais revenus. Ils sont revenus, mais il a fallu attendre 5-6 ans avant que les couples viennent se remettre. Donc c'est protéger, c'est respecter l'écosystème. C'est moi, ce que je me force à faire, c'est vous vous promenez, vous voyez des plastiques, vous voyez des déchets, ramassez. Ramassez un ou deux déchets Mais parce que j'ai des images frappantes dans ma tête sur la Moselle sauvage qui est magnifique. Une des plus grosses huttes de castors de la Moselle sauvage, c'est en cas de crue, c'est arriver autour de cette hutte et avoir des milliers de déchets autour de cette hutte de castors, même des tambours, des pneus, des tambours de machines à laver. C'est infernal. Ouais, c'est incroyable. Il faut combattre le déchet à la source.
Vous avez parlé de castors, oui. Chez nous,
ah, oui. Les castors ont été réintroduits en 1984. On a réintroduit en Lorraine, au niveau de la Moselle sauvage, une douzaine de couples. Et maintenant, il a proliféré sur tous nos espaces. On trouve même au niveau de Charmes, on trouve même des huttes de castors en pleine forêt. Hein.
Donc ce voilà. Ne sont pas des ragondins, comme on voit. Ce sont les castors.
Il y a aussi des ragondins, mais ça, c'est les castors.
Le castor, c'est le castor fiber, en réalité, hein, qui nous vient, en réalité, de d'Europe centrale, hein. c'est le castor européen, alors que le ragondin, il a la queue ronde, le ragondin est un peu plus trapu comme ça, le castor il a bien la queue plate, hein. Mais on a je ne connais pas la population, mais je pense d'une dizaine de coups, on est passé à plusieurs milliers d'individus, hein. On en trouve un peu partout.
J'ai appris quelque chose.
On a du castor, vous en avez même ici, hein, pratiquement sûr. Alors c'est très spécifique le castor, quand vous voyez un arbre qui est tombé, qui est coupé au niveau de sa base, et que au niveau de la souche, c'est taillé en réalité comme un crayon de papier, et vous n'avez qu'à regarder sur cette souche-là, vous avez toute la petite dentition, les dents, ouais. Donc c'est vous dire que c'est un castor qui a coupé cet arbre. Et bien souvent, avant que l'arbre y tombe, il grignote de chaque côté, parce qu'en réalité, le castor, il n'est pas carnassier, hein. il est herbivore, il se nourrit en réalité de l'écorce des arbres.
Voilà. C'est sa réserve. Ça pour l'hiver.
Il se nourrit en réalité de ce voilà. Il se nourrit de ça et il creuse et voilà. Il va chercher les donc il mange et en même temps il ramène ses arbres et il crée ses barrages. Donc c'est très très intéressant le castor parce que ça permet par exemple j'ai vu dans les forêts, ça permet d'avoir des zones humides dans les forêts. Même en très forte période de sécheresse, le castor il est capable de créer un barrage d'une centaine de mètres, hein, dans une forêt. Donc ça retient l'eau et quelle incidence ça a en cas de sécheresse? Cette eau qui est retenue, elle permet par exemple aux amphibiens de pouvoir se reproduire, d'avoir ses œufs. Alors dans les amphibiens Il y a deux choses dans les œufs. Il y a les amas. Les grenouilles font des œufs en amas, alors qu'en réalité, les crapauds sont des cordons. Hein, c'est comme un cordon, comme un collier, comme un chapelet. Hein. Donc ça, par exemple, pour les insectes, pour les amphibiens, grâce au travail du castor qui va retenir l'eau dans la forêt, on va pouvoir de la prendre. Parce que imaginez-vous qu'à l'heure actuelle, en plus, nos forêts, même si elles n'ont pas, c'est sous ton couvert, Stéphane, si elles n'ont pas perdu en surface, elles ont perdu en densité, je pense.
C'est ça, en densité, oui.
Ouais. Et ça, la densité, quand j'étais gamin, il y a 50 ans, 40 ans en arrière, ou quand j'allais courir, on avait un chêne tous les 10 mètres, maintenant un chêne, on en a un tous les 100 mètres, d'accord ? Et le fait que, quand je parlais des petites ornières, où vous avez de l'eau qui va dissimuler, où nos amphibiens vont aller pondre, si la densité de la forêt, elle a diminué, lorsque vous allez avoir le soleil qui va percer et qui va arriver au sol de cette forêt, eh ben l'eau, elle va s'évaporer beaucoup plus vite.
C'est le problème des coupes à blanc, comme on peut le voir souvent avec les grosses machines. Donc là, on peut se dire que déjà l'eau, elle va s'évaporer de suite. Et il faut quand même comprendre que quand on utilise des grosses machines, comme ils font maintenant pour faire du bois énergie, il faut penser que c'est 8 à 10 ans sans biodiversité.
C'est énorme.
C'est énorme.
Ouais.
C'est énorme.
Ça veut dire qu'en fait, le mycélium est complètement... Il y a une rupture du mycélium, il n'y a plus de communication végétale, il n'y a plus rien. Voilà. Alors effectivement, les gens vont se dire, oui, mais regarde, il y a de l'herbe qui pousse et machin. Oui, on va replanter des arbres, mais on n'aura pas autant de restitution que les grands arbres qu'on avait. Alors, il faut se poser les bonnes questions et peut-être juste changer notre façon de faire les choses.
Il faut dire qu'un arbre, ça retient beaucoup d'eau. C'est ça qui est important.
Oui, mais
aussi.
Ça pousse en combien de temps un arbre?
Voilà, c'est ça.
C'est lent.
Être propriétaire d'une forêt, c'est compliqué. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais les propriétaires de forêt sont riches. Mais ils sont riches, non, ils ne sont pas forcément riches. C'est juste qu'en fait, ils font une gestion qu'ils ne verront, jamais en fait, l'aboutissement de leur gestion.
Si la gestion est bonne, parce qu'il y en a qui achètent des arbres juste pour les couper. Quoi.
Ça,
des
forêts, débat,
juste
pour les couper. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Gestion. Mais il y a aussi autre chose, c'est que sur les forêts, on parle de densité, donc ce qui veut dire qu'on a une concentration de gibier dans nos forêts qui mange la régénération forestière, et ça devient vraiment un gros problème. Voilà. L'urbanisation concentre, et le nourrissage tient, et les populations, par exemple, de sangliers dans les forêts, ce qui fait qu'on a aussi ces chasseurs qui font leur quota, mais bon, on attend d'eux beaucoup, mais c'est pas un métier non plus, ça reste quand même leur loisir. Donc il y a aussi des choses à mettre en place, il faut se mettre autour de la table et puis voir ce qu'on peut faire. Mais ça peut être compliqué, c'est un débat interminable. Voilà.
Chacun ses positions.
Mais en même temps, il faut faire quelque chose. Ouais. Parce que c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Donc j'ai été du côté de Colmar pour visiter une forêt. Il y avait un tapis de feuilles. Pas de régénération, rien. Et on en est arrivé à un point où, quand on tuait là-bas, ils ont abattu un chevreuil adulte, il faisait à peine 9 kilos.
Ouais.
Et c'était le plus gros mâle. Donc on a vraiment un problème sanitaire qui se rajoute par-dessus. Et tout ça, c'est à tous les étages. Que ce soit aussi bien dans une mare, un étang ou n'importe quoi. Si c'est mal fait, si on laisse faire trop les choses aussi, eh ben ça pose des problèmes. Et c'est bien qu'on se rend compte qu'on est beaucoup trop nombreux. Parce qu'on en parlait encore ce matin, les gens construisent des lotissements autour... il y a des villages qui font leur lotissement autour du village, et tous ceux qui sont au centre du village, finalement, vont à l'extérieur. Et on se retrouve avec des dents creuses au milieu du village. Mais c'est exactement pareil partout. Ce qui fait qu'on empiète, en fait, sur...
L'urbanisation, sur le milieu.
Sur la nature.
Voilà. Sur le milieu. Ce qui est...
C'est ça, la biodiversité urbaine... c'est ce qu'on prône partout, mais c'est pas évident de la faire.
Ça sera, je crois, le thème la biodiversité urbaine, les entretiens de la biodiversité qui se fait au parc de Sainte-Croix vont se faire maintenant par alternance au parc de Sainte-Croix, et cette année ça sera au niveau du Récollet,
oui.
À l'Institut européen d'écologie, et le thème c'est la biodiversité, la place de la nature dans l'urbanisme, au niveau de l'urbanisation,
la biodiversité urbaine. Peut-être encore une petite question, étant donné qu'on parle du Saulnois et puis c'est très important, et qu'on a un représentant sur
de la Moselle Sud.
Tu peux nous en dire un petit mot? Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais vraiment succinct.
Pour l'instant, on est qu'aux prémices, le tout c'est de promouvoir en fait le territoire pour la réserve biosphère de la Moselle Sud. C'est
quand même
un label de l'UNESCO.
C'est la 15e biosphère, il y en a 700 à peu près dans le monde, et il y en a 16 en France. Et celle de la Moselle Sud et celle de la Martinique ont été nommées
en décembre.
En 2022.
Décembre 2022.
Et ça représente en fait la Moselle Sud, il y a 4 territoires. C'est-à-dire qu'il y a la Comcom de Falsbourg, ça représente aussi la Comcom de Sarrebourg et la Comcom du Saulnois. Ainsi que une partie du territoire parc naturel régional de Lorraine à côté.
Une partie.
Donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Il y a pas mal de travail encore, parce que c'est long, et puis ça prend forme, ça se construit.
Ça prend forme, et on devrait être présent au Grand Festival Animalier de Montier-Ondaire au mois de novembre 2024. On devrait présenter cette biosphère sud, on devrait la présenter sur un énorme espace.
Donc mon rôle après sera de promouvoir en fait mon territoire du Saulnois.
Voilà. Donc représentant de la biosphère quand même, on peut le dire. Si tout se passe bien.
Voilà. On verra.
Et le Saulnois, c'est vaste, étendu.
Oui. 128 communes, à peu près 1000 km². Ça représente à peu près, je crois, 30 000 habitants environ. C'est quand même assez étendu.
Beaucoup de bois, beaucoup de forêts, beaucoup de prairies. C'est un milieu paysan, on va dire, qu'on essaye de mettre au goût du jour. C'est un petit poumon vert. Juste avant les Vosges.
Ouais.
C'est ça, c'est la porte.
C'est la porte.
Si on veut en savoir plus en ce qui concerne les zones humides ou tout ce qu'on a parlé ce matin, est-ce qu'il y a un site de référence? Est-ce qu'il y a un endroit où aller découvrir?
Ouais. Je pense qu'il y a des beaux endroits à les découvrir soi-même en se promenant. Hein. C'est le Lindre et c'est l'étang, la réserve de la Chaussée qui se trouve à côté de Madine. La réserve de la Chaussée, comme le Lindre, c'est un peu similaire. Hein. Il y en a un qui fait 600 hectares, l'autre 300. Mais il y a de belles balades à faire. Vous êtes ici, je pense, à 40 minutes du Lindre et vous êtes à 40 minutes de la Chaussée. Donc, ouais. Mais c'est bien
situé. Il y a des itinéraires pédagogiques à Lindre. Sinon, vous pouvez vous rapprocher du parc naturel régional de Lorraine sur le site internet, justement, où il y a pas mal d'informations sur. Pas que sur ce thème-là, mais sur plein de thèmes, en fait. On prépare aussi le concours des prairies fleuries avec les agriculteurs pour promouvoir aussi ce qu'ils font. Hein, bien souvent, les gens disent qu'ils ne balancent que du pesticide, mais moi, j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs heureux et respectueux de la nature. J'ai rencontré quasiment que ça jusqu'à maintenant, même si on a eu quelques différences, ça peut arriver, hein, c'est comme dans un couple, hein, c'est normal. Mais non, mais c'est logique. Mais voilà, il y a ça. Et puis, si pour ceux qui veulent visiter pour faire des sorties ornitho ou aller sur les mares salées, alors à partir du mois de mai, je vais commencer à créer des sorties avec l'Office du tourisme du Solma. Voilà.
Il n'y a pas que là, hein. Vous pouvez aller tout autour de la ville de Metz, hein, qui est bien fleurie. Hein. Hein, vous faites, il y a à peu près plus de 50 km de marche à pied, hein, en passant par le chemin des amours, les berges du canal, etc. Donc là, on peut se balader à pied, en vélo, et tout en respectant tout ce qui se passe autour de vous.
Et du côté de la Chaussée, vous pouvez prendre rendez-vous avec Fabrice André, guide nature, pour aussi... visiter, comprendre et de façon pédagogique et ludique.
Oui. En réalité, la réserve de la Chaussée, elle est gérée par un bail antifaultique de 99 ans, je crois, oui, c'est ça. Ouais. Par le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Hein. Et le conservateur, c'est Benoît Paul, qui est le conservateur. Donc là, vous avez un guide nature aussi qui est présent là-haut, c'est Fabrice André, et il travaille de concert. Parce qu'aussi, sur cette réserve-là, il y a un ESAT. Personnes handicapées, à mobilité réduite, à peu près de 60-70 personnes qui travaillent aussi là-haut. Voilà.
Qui seront présents, c'est très bien, ceux qui seront présents le 14 avril. Ouais. Et vous verrez leurs travaux au NEC. Surtout, il y aura Fabrice André, Stéphane, Alain et beaucoup d'autres personnages qu'on va entendre ici. Vous verrez, ça sera très intéressant.
Tout ce qu'on vous a résumé là, vous le verrez au Nouvel Espace Culturel de Marly, au NEC, le 14 avril, toute la journée.
Avril, lors de la Bourse aux Poissons. Hein. On attend avec impatience. En plus, c'est les 10 ans. Je pense que notre aventure a bien commencé. Hein. Au fil de l'eau, nous avons appris que la nature est forte et fragile à la fois. La préserver est une priorité pour le bien de tous de notre belle planète. Déjà, bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 23 février, justement avec Stéphane qui est présent, Stéphane Corbeil et Fabrice André, qui est guide nature et photographe animalier, tout comme Stéphane, et qui nous parleront justement de ce beau métier guide nature, vaste métier, vaste aventure, parce que guide nature, qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous en parleront la prochaine fois. Et juste après, ça, notez bien dans votre calendrier, c'est le 8 mars, avec Jean-Philippe Blouet, le chasseur de dinosaures lorrains, comme on l'aime à dire. Il est paléontologue et docteur en géosciences, et lui nous parlera de la biodiversité, mais au temps des dinosaures. Voilà.
Merci messieurs pour cette émission très intéressante pour ma part. J'ai appris plein de choses.
Merci.
Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve donc dans 15 jours.
Voilà. Et on répondra à vos questions si vous avez l'opportunité de nous interrompre. On va pas dire monologue, mais triologue.
Triologue.
Voilà.
On se retrouve donc dans 15 jours et nous serons toujours avec Stéphane et nous parlerons, et Jean-Louis, et nous parlerons de guide nature et de photos. Bonne journée, à bientôt.
À vous aussi, bonne
Merci,
journée.
Au revoir. 89.2.